Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre.
C'est un street artiste qui commence à faire parler de lui, Mario Oburtin, plus connu sous le pseudo de Spawn. Il est peintre muraliste, illustrateur, il est né à Lyon et œuvre depuis plus de 10 ans à mettre en valeur le paysage urbain en privilégiant une présence graphique de la nature et des formes inspirées par l'environnement naturel. Lors d'un voyage de 3 ans au Pérou, il a étudié le lien entre l'homme et la nature à travers les cultures du monde. On lui doit en particulier une fresque monumentale réalisée en 2022, Quai Gilet, dans le 4e arrondissement, Rêverie aquatique, une réalisation de 20 mètres de hauteur. Nous avons rencontré l'artiste sur la péniche Le Maquis, association dont la vocation est de sensibiliser à la transition écologique par l'art, justement.
L'influence principale de mon univers artistique vient d'une espèce d'attrait pour les anciennes cultures du monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai passé plus d'un an en Asie à peindre des murs, j'ai vécu et peint des murs pendant 3 ans au Pérou. Par les voyages, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans ces anciennes cultures du monde, dans l'art de ces anciennes culture du monde. Régulièrement, je voyais que c'était ce lien et ces histoires et ces contes qu'on trouve qui relient l'homme et les paysages naturels, l'homme et les éléments naturels, l'homme et les animaux. En résumant, le lien homme-nature, ce lien donc plutôt ancien que je retrouvais un petit peu dans mes voyages, un petit peu par-delà les frontières, je retrouvais souvent dans ces anciennes cultures, ce lien qui en fait pour moi était similaire un petit peu à chaque fois par-delà les différents continents, quoi.
Comment est accueilli cet art, justement, ici, par les Lyonnais, cette plongée dans l'imaginaire, un petit peu?
Disons qu'en revenant de ces voyages et en peignant les murs à Lyon, je me suis quand même posé la question. Je me suis demandé comment va être un peu l'interaction, la réaction des locaux ici. Moi, je suis né à Lyon, hein, donc je vois bien d'où je suis venu pour arriver à ce que je suis, donc j'y crois. Mais est-ce que les autres vont le ressentir, ou au moins, voilà. Donc j'ai toujours un petit peu, des fois, eu cette appréhension. Bah, mais en fait, au final, ça fait plus de 10 années que je fais ça, que je traite ce sujet-là, donc d'une nature, un peu d'une perception de la nature entre guillemets exotique à Lyon. Et plus j'avance, plus je vois qu'en fait il y a une espèce de réaction globale, générale, et un attrait à ça. Je sais pas si les gens voyagent à travers les murs ou si ça leur parle dans ce qu'on pourrait dire une espèce de mémoire interne, mais l'être humain a passé dans l'existence de l'humanité, on a passé plus de temps dans le milieu naturel qu'en ville. Donc de revenir et de balancer sur les murs une imagerie végétale naturelle avec cette saveur des arts premiers, j'ai souvent des réactions assez sincères et émotives, quoi. Je ressens de l'émotion, les gens, que ce soit par les couleurs ou la thématique. Je ressens une espèce de besoin un peu de ça, parce que, bon, voilà, déjà, la thématique est sympa, certes. Par contre, il y a le côté aussi de briser le sérieux et le côté un peu, bon, morose. Moi, je le vois morose. Je trouve qu'on a perdu un peu vraiment de la vie en percevant le milieu urbain comme voilà, un lieu de déplacement, d'aller d'un point A à un point B et de passer par des murs gris-souris ou saumon. C'est tout. Donc, il y a une espèce de cassure par le mur peint. Plus j'avance, plus je vois que par les interactions avec les gens, je me dis, ben voilà, faut que je vais continuer parce que ça a de l'effet. Et c'est positif. Moi, j'y vois du positif. On va dire bien accueilli et encore en évolution, encore en réflexion, parce qu'à chaque fois, j'ai des interactions différentes. Les gens me disent des fois que voilà, ça fait du bien et qu'ils me disent, putain, on en a besoin, quoi, de couleurs et de cette imagerie simple, végétale. Il y a quelque chose qui concerne tout le monde. Ce que j'explique des fois, c'est que voilà, il y a un moment où quand tu parles de nature, en fait, c'est pas un sujet compliqué à appréhender. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc les gens peuvent rentrer facilement dans l'univers et facilement se laisser aller. Mon objectif, c'est d'essayer de faire des espèces de portes de respiration pour pouvoir se détendre l'espace d'un instant quand on chemine en ville.
Comment ça se traduit cet imaginaire que tu portes sur les murs? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes peintures, parce qu'on est en radio?
Cet attrait un peu pour les anciennes cultures, je me suis rendu compte que pour moi, bon, j'aimais beaucoup ces légendes-là liées à, très anciennes, hein, liées à un monde ancien, presque un passé un peu tribal des fois en Indonésie, en Asie, en Mongolie, avec un animisme très fort, mais ce sont des histoires anciennes. Par exemple, en Mongolie, c'était avant l'arrivée d'une une version de l'hindouisme, mais on a encore ces chamans qui sont encore très présents dans la culture locale, mais c'est souvent via des histoires, via des contes. Par le voyage, là, en 2017, je suis parti donc vivre 3 ans au Pérou grâce à Camille Bajot, donc, qui m'a donné les contacts donc, d'une école d'art en Amazonie. Et je suis parti là-bas donc, dans l'objectif d'apprendre un peu, de dessiner. Je voulais dessiner la forêt, l'Amazonie tropicale, qui m'attirait vachement, en tout cas depuis la France, et de rencontrer un petit peu donc, voilà, le paysage, ses artistes, et de découvrir un petit peu localement comment ça se passe. Donc dans cette école où j'ai passé 2 mois, je suis tombé sur un livre qui m'a complètement bouleversé. C'est un livre en fait qui a été fait par une équipe de production de documentaires péruviennes et qui relate les contes Kukama. Donc Kukama qui est cette culture indigène du nord Pérou. Et donc ce bouquin relate ces histoires-là, ces contes. Dans ce livre, il y a des préfaces et des postfaces. Donc les préfaces, c'est écrites par des personnes qui, bon, ça m'a étonné de voir Naomi Klein faire la préface. Je sais pas, Naomi Klein, donc une écrivaine, faire la préface de ce bouquin et qui explique en fait l'importance et on va dire bah, presque l'obligation un peu d'essayer de sauvegarder ces pensées-là, ces autres visions du monde en fait. De sauvegarder parce qu'en fait c'est en danger d'extinction. La langue locale est en danger d'extinction et elle est le support de ces histoires-là. Et ensuite j'ai été bouleversé par les contes eux-mêmes. Dans les histoires, de manière très simple, on t'explique qu'il n'y a pas de frontières, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas de séparation. On est tous, tout le monde est en fait un peu au même niveau, on est tous une même famille, un petit peu, entre humains et non-humains. C'est-à-dire que tout le monde a une personnalité et on communique les uns avec les autres. Donc ça, moi, en tout cas, de mon côté, moi qui venais de la France, ça a déconstruit en fait ma notion d'écologie que j'avais de par la France et de mes voyages d'avant. Et donc ce bouquin-là, moi, c'est quelque chose qui a été un peu une espèce de point de départ et je me suis rendu compte que du coup un des supports de cette pensée de tout ça ce sont les contes et l'onirisme donc c'est une manière de traiter d'une compréhension du monde qu'on appelle une cosmovision là-bas. Ici, je crois qu'il y a un terme, on appelle ça une ontologie, un petit peu, donc une relation aux autres, aux vivants, à l'univers dans lequel on se trouve. Et les contes, et donc l'onirisme, te permet de faire un résumé, de faire des allégories sur des concepts de relation aux vivants. Voilà, mon travail maintenant, je sais que c'est ce qui m'intéresse, c'est essayer de traiter d'un onirisme, je ne sais pas si on peut dire symbolique, mais au moins d'essayer de, par l'allégorie et la métaphore, d'essayer de traiter d'un sujet de relation à notre propre place dans le cosmos. Voilà, un onirisme monumental, c'est ce que j'essaye de faire, donc par le mur peint assez grand, c'est-à-dire presque essayer de faire rêver les gens en grand, c'est-à-dire que quand tu fais des choses de grande taille, t'as quelque chose d'imposant. Et si en plus tu rajoutes un peu de surréaliste ou de l'onirisme, et donc une espèce de pseudo-conte ou des histoires symboliques, il y a quelque chose où je vois qu'il y a une réaction assez intéressante, quoi, de réinventer un monde, réinventer des histoires, et tout ça avec une espèce d'envie au moins de vie, quoi.
Et si on veut voir une de tes réalisations, ça se passe à Quai Gilet, au 40 Quai Gilet précisément?
Ça, c'est la dernière réalisation que j'ai faite à Lyon, enfin, de grande taille. Ouais, 20 mètres de haut, en bas des S, au 40 Quai Gilet, sur les quais. Ce mur-là, donc, il a été fait par une espèce de... un projet de muralisation, en fait, de 4 murs dans le 4e arrondissement, orchestré, organisé par une association qui s'appelle Mur 69. Donc, ils avaient fait un appel à candidature, un appel à projet. Ils avaient réussi à trouver, donc, 4 espaces. Et sur ces 4 espaces, ils avaient proposé une muralisation sur le thème des 4 éléments. Moi, j'ai fait 3 propositions. Une proposition pour le feu, une proposition pour la terre, une proposition pour l'eau. Celle de l'eau, c'était pour moi la meilleure proposition. Pour moi, enfin, voilà. Je trouvais que c'était la plus sophistiquée. Après avoir passé 3 ans au Pérou sur cette thématique-là, avoir fait des dessins animés, de cette plongée dans la spiritualité, en tout cas autour des rivières. Le dessin que j'avais proposé pour l'eau était vraiment de l'inspiration et un peu une espèce de synthèse, finalement, de ces 3 ans au Pérou, quoi. Donc il avait quelque chose de solide, il avait un sens. Et donc il y a eu un vote autour de des propositions que les artistes ont fait. A priori, donc, la proposition que j'avais faite pour l'eau a eu 39 sur 40 de résultats. Donc on est parti là-dessus. Et au final, bon, voilà, c'est plutôt rigolo de voir une page de bande dessinée de 20 mètres de haut sur les quais de Saône avec une espèce donc une version un peu syncrétique, on va dire, de croyance autour de l'eau. On y voit une espèce de déesse, une ou une personnification de la nature qui est à moitié immergée de l'eau, qui sort de la surface. Donc en fait, la surface, c'est juste au-dessous de ses yeux, c'est-à-dire que la moitié de son visage est au-dessous. Essayer de garder un mystère, de dire qu'il y a plusieurs niveaux, surface et subaquatique, donc sous la surface, ça c'est complètement une notion de spiritualité d'Amazonie. Donc ce personnage est à moitié immergé et donc sa chevelure s'envole comme si en fait à la surface, elle était encore dans l'eau, comme s'il y avait encore une surface au-dessus, plusieurs strates, quoi, plusieurs niveaux. Et donc dans sa chevelure, qui est faite de plantes aquatiques, il y a un poisson qui s'en mêle. Donc on a un petit peu... On a du non-humain, du humain, tous mélangés avec cette espèce de côté mystérieux de sous la surface, avec un regard profond qui essaye de choper la vue. Voilà, c'est du mystère, de l'onirisme et de la couleur, c'est l'objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, j'ai eu des retours, il y a des gens qui me disent qu'ils voient une espèce de vision de Bouddha, d'autres qui me parlent de déesse grecque, chacun un petit peu sa réaction. Et voilà, c'était un chouette projet, quoi.
Et pour conclure, il y a aussi un prolongement en vidéo à ton travail.
Ouais, alors du coup, j'ai fait aussi un peu de... En fait, le passage d'un dessin à un mur peint se fait souvent des fois par Photoshop, à faire du montage pour essayer d'avoir des visions, des previews, quoi, de ce que tu vas faire. Et j'ai une formation un petit peu aussi quand même en audiovisuel. En fait, c'est un médium, l'audiovisuel, qui est vachement intéressant. J'ai fait un peu de musique aussi, des courts-métrages, des vrais courts-métrages avec des acteurs. J'ai essayé quand on était plus jeune, on se marrait bien. Et donc, je suis passé aussi actuellement dans le dessin animé, qui est un mode de restitution qui est assez global. On a du son, de l'image, on rentre dedans. L'objectif, des fois, c'est d'être dans une salle obscure, d'être assis et de se laisser porter. Et surtout, donc voilà, au Pérou, pendant ces 3 ans, j'ai pas fait que des murs peints. J'ai fait aussi 3 courts-métrages d'animation qui sont tous en lien avec les contes d'Amazonie, dont le premier court-métrage qu'on a présenté au Festival international de Annecy en 2019, qui a gagné un prix de meilleur film d'animation à un festival qui s'appelle Présence autochtones au Canada, donc peint par les locaux, sur les contes locaux. Cette importance, en fait, de multiplier les modes de restitution sur une pensée, mais ensuite, je veux dire, il y a une espèce de satisfaction de voir que le sujet parle à tout le monde. Quoi, on est autant les anciens que les jeunes, sur que ce soit nature et les contes, donc que ce soit le mur peint ou le dessin animé, voilà, le sujet, la thématique en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut multiplier, ça peut être en bande dessinée, en musique, ou peu importe. Les modes de restitution, c'est une manière de cultiver, quoi, de cultiver cette pensée.
Et pour avoir une démarche globalement respectueuse de l'environnement, Spawn réalise toutes ses fresques avec une peinture acrylique, à l'eau, au pinceau, et en évitant l'utilisation de spray. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'artiste www.onespawn.fr.